Ah,
j'ai pas fait de découpage.
Et par contre, c'est un sampler ou c'est l'ordi?
Non, c'est un sampler, c'est le S760.
Ah,
tu sais que moi. Matinée du samedi 11 avril 2026.
C'est le même son, mais avec. En fait, c'est le même.
Studio Atlanta, Triax, quartier La Roseraie, à Toulouse.
Pas non plus. Ah, oui, et fait en Italie.
Fait en Italie. Et je le garde jalousement.
Ouais, j'aime bien.
Par contre, il a un fac.
Première édition du Synthé Day, proposé par l'association Keys and Knobs Stuff.
Ah ouais, on est d'accord, il déconne le clavier après.
Oui, il n'est pas de très bonne qualité, c'est le même que ce qu'il y a sur le G800.
Attends, tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui, s'est qui a pris le corps directement?
Le Synthé Day.
Bah là, il y a toutes les machines. Là, il n'y a... J'ai amené que les machines du chemin.
Là, qui c'est qui joue du coup?
C'est le corps de T3, quelqu'un joue sur le T3 derrière.
Quelqu'un, c'est moi.
Ah, parce que vu qu'il y a les trois claviers qui sont pas en local.
Le jour du synthétiseur.
Je t'avouerais que voilà, y a, les jeux Korg, c'est un petit peu une partie de mon enfance en
voilà.
fait. Mmh, donc si tu veux, j'aimerais bien.
Voilà, ici tu as le Korg T3.
Voilà.
Exposition et salon dédié aux synthétiseurs analogiques des années 60 et 80.
Voilà, enfin pas le.
Si, je crois que
il y a le M50.
Il y a le M50 de Micro X.
Celui qui a
4 rues
et 5
rues. C'est les 3 formats qui existent en synthé.
Oui, d'accord.
En taille, quoi.
Ah, je crois que, je savais pas qu'il y avait des règles de.
Ouais. Bon, le plus connu, c'est cette taille-là. Hein. C'est ce qu'on appelle le RORAC. Ouais. C'est plus petit. Voilà,
c'est comme ça qu'on met tout. Là.
Ouais. Ah ouais. L'idée, c'est, voilà, c'est de présenter un peu tous les types de modulaires. Et semi-modulaires aussi, ici. Ça, c'est bien pour la radio, c'est un synthé toulousain.
C'est bon.
C'est le RSF. Ouais, c'est Ruben et Serge Fernandez.
Hein. D'accord. Pour eux.
Qui ont développé ça dans les années 70. Voilà. Parce qu'il est connecté. Non, si je fais le sustain, ça va pas marcher. Il y avait une forme d'onde variable. Enfin, qui a toujours,
ah oui, on passe voilà. De l'une à l'autre en continu.
Voilà, c'est en continu.
Ah oui,
au lieu de ça, c'était assez novateur à l'époque. Il n'y avait que qui faisait ça.
Ouais.
Oui, parce qu'en général, c'est des paliers.
C'est ça, ouais, c'est des switches. Là, voilà, tout à fait.
Ouais. Ça, ça a dû rester, quoi. C'est tellement plus.
Voilà. Et lui est un semi-modulaire, donc on a tous les points de modulation, mais s'il n'y a rien de connecté, il fonctionne. Contrairement au synthé comme celui-là, on a besoin de connecter tous les modules entre eux pour faire un son. Quoi.
Est-ce qu'un appareil comme celui-ci est encore trouvable sur le marché de l'occasion?
Alors, celui-là, c'est quand même très rare. Donc, mais c'est possible encore, c'est relativement cher. Après, il y a des rééditions. Celui-là, c'est une réédition, en fait.
Voilà. La réédition qui remonte à...
Récente. Non, c'est encore fabriqué. Ça se fabrique tel quel, comme ça.
On se laisserait prendre au piège alors.
Hein. Oui, c'est fait comme avant, mais c'est neuf.
Ah ouais, il y a quand même beaucoup... Il y a un marché de la réédition, alors.
Ah oui.
Ouais. Alors c'est des petites sociétés, c'est des petites structures hein, qui font ça.
Des passionnés.
Ouais. C'est souvent des entreprises de 2, 3, 4 salariés maximum. Et c'est sur commande, il y a du délai...
Et Behringer a fait pas mal quand même.
Behringer, c'est plus
bon. Ouais. Oui.
C'est pas des rééditions comme avant.
C'est-à-dire celle-là et celle-là, c'est la réédition à l'identique.
D'accord.
C'est les mêmes composants, c'est des composants traversants. Voilà. Alors que Behringer, ce sont des copies. Ah oui, avec du CMS.
Ouais, c'est ça.
C'est la forme d'onde qu'on voit.
C'est important d'avoir ce paramètre à
non, portée. C'est plus pour de faire de la déco en fait.
D'accord. Mais les gens comprennent mieux si on.
Ouais, voilà. Parce que là, on voit que c'est un mélange en fait de formes d'ondes modifiées par un filtre. Je pourrais ne mettre qu'une forme d'onde par exemple si je mettais que lui. Voilà.
D'accord.
Là, c'est un sinus. Et là, c'est une onde plus. Voilà, triangle. Là, on voit la différence.
C'est de la science-fiction, quasiment.
Quasiment. Ou carré, voilà.
lui, là. Si tu
fais ça, bonjour. Je m'appelle Alain. Je suis passionné de synthétiseur analogique et collectionneur, forcément. Donc, je suis devenu même électronicien à cause de ça, puisqu'ils sont toujours en panne. Donc, c'est moi qui les maintiens. Je suis surtout passionné de synthétiseur Korg, des années 73 à 83. J'en ai une petite collection ici, présente.
Ah, tout ça, c'est un peu votre
appareil. C'est à moi. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'aime toutes les marques, en fin de compte. Mais j'ai une petite préférence. Puis en plus, c'était chez les synthés Korg, que c'est mes premiers synthés que j'ai achetés, parce qu'ils n'étaient pas très chers à l'époque. Hein. Et voilà, quoi. C'est une belle petite collection. Surtout, vous pouvez faire...
Alors, pour constituer un parc de synthétiseurs comme ça, on passe beaucoup de temps sur le Bon Coin, on cherche à droite à gauche en permanence.
Non, alors, pour ne pas citer de marque, moi, je suis plutôt audiofanzine, parce que le Bon Coin, c'est un peu n'importe quoi. Sur audiofanzine, évidemment, là, on paye le prix de la cote, hein, mais comme ils ont été sous-cotés avant, c'est là que j'ai constitué ma collection, au moment où ils ne valaient pas grand-chose.
D'accord. Donc maintenant, vous n'êtes plus sur une phase de recherche ?
Non, parce que maintenant, j'en ai trop et j'ai plus de place.
Ah oui, parce qu'il y a ce problème-là aussi.
Et oui, il faut avoir une maison qui est bien, bien remplie. Et c'est un petit peu le problème, c'est qu'on a toujours envie d'en acheter, compulsivement. Hein. Mais là, quand on n'a plus de place, c'est fini. Hein. Mais je les répare pour l'association, parce qu'ils sont... Ils ont toujours des pannes à droite, d'accord, à gauche. Ouais. Et donc, comme ça fait pas mal d'années que je les répare, je commence à avoir acquis des connaissances, des compétences qui me permettent justement de pouvoir les maintenir.
Un appareil qui a déjà 20, 30, 40 ans d'existence va tomber en panne de plus en plus régulièrement ou pas forcément ?
Alors ça dépend, parce que je ne suis pas tout seul à réparer. Je suis avec mon voisin qui est électronicien aussi. Donc, on trouve que même les synthétiseurs analogiques d'il y a 50 ans sont plus réparables et sont bien plus costauds que les synthés numériques de maintenant.
Ah, ouais,
c'est bien celle-là. Oui, il faut le savoir.
Parce que maintenant, la plupart des musiciens jouent avec toujours le même clavier. En fait, c'est le Norli de rouge là qui.
Qu'on retrouve partout parce qu'ils sont très récents et ils sont numériques pour la plupart de ces synthés rouges.
Mais une oreille avertie sent la différence entre l'un
Alors,
vrai et la copie.
Dans un concert, non. Mais dans un studio, on aime bien les vieux synthés parce qu'ils sont vivants. C'est-à-dire que les notes sont toujours plus considérées comme plus chaudes puisqu'elles changent à chaque fois. Il y a des petits clics et des couacs qui sont à l'intérieur du son. Si on a des bonnes oreilles, on peut les entendre. C'est pour ça qu'on aime bien les vieux d'analogique. C'est parce que c'est un son très très vivant, quoi. Très chaud.
Pierre-Henri.
Quels sont tous ces paramètres de...
Alors ça, c'est la séquence de 12 pas qui tourne comme ça, en continu.
Ah d'accord, alors c'est le son de la note qui...
Ça, c'est la note, et ça, c'est la fréquence.
D'accord.
Fréquence de coupure du filtre.
D'accord. Hein. Et la dernière rangée, en bas, là, le canal C, là, c'est...
Ça, je ne l'ai pas branché, il n'est pas actif. Mais on peut le mettre sur un autre paramètre. Voilà.
Donc, lui, comment de lui ?
Oui, voilà. MS-10 branché sur le SQ-10. Ensuite, on attaque sur les polyphoniques. Alors, il y a des hybrides. Hein.
Comme celui-ci.
Oui, c'est-à-dire on va commencer par le Monopoly, comme son nom l'indique, il fait les deux. On va couper celui-ci.
Ça a l'air détuné. Non, mais c'est parce que Tommy...
Complètement détuné, oui. Le Monopoly, lui, il fait les deux. Voilà, là on a du polyphonique 4 notes. Et là, on a de l'unisson, c'est-à-dire pour une note, il y a 4 sons en même temps.
Donc gain de temps sur scène quand il faut aller vite.
Sinon après, ouais, après.
Alors le contrôleur, c'est là où il est censé envoyer normalement les trucs. Dans le device, ok, toujours ça. Et là, on va faire all channel. Ok, nickel. En fait, si je joue, genre, si je touche à un truc ici, vas-y. Là, il fait une erreur. Ça fait rien. Ça m'a juste monté le volume.
Ah. Encore.
Tu vois, si je change. Vas-y. Donc ça fonctionne. Je sais pourquoi il fait cette erreur. Putain, j'ai compris. En fait, il a besoin d'être branché dans les deux sens.
De quoi ?
Il a besoin d'être branché.
Non, il n'y a pas de out.
Il n'y a pas le through, il y a que le in et le through.
Ouais, y a pas de out.
Ah oui, putain, c'est pas comme sur le scar.
Par contre, c'est pas normal qu'il tienne le son comme ça.
Si, parce que t'as mis un release infini.
Ah, pardon.
Quelques mots ? Pourquoi pas ? Non ?
Ouais.
Allez. Donc, passionné de synthétiseur également ?
Oui.
Depuis toujours ?
Non, pas du tout. Je suis batteur à la base. Et je me suis intéressé au synthé parce que je voulais devenir compositeur. Parce que je me suis intéressé à pas mal, à un peu toute la technique et le matériel en même temps, en fait. Ça fait très longtemps que je m'y intéresse quand même. Voilà.
Et le synthétiseur était un appareil attractif.
Et le synthé, au même titre que des effets ou des amplis ou tout ça, voilà. J'étais obligé de m'y intéresser.
À l'heure actuelle, collectionneur ou...
À moitié collectionneur, mais je collectionne aussi les micros. Donc, disons que j'ai beaucoup de matériel, mais je l'utilise professionnellement. Voilà.
Ah, c'est du matériel qui est en exploitation alors.
Pardon ?
Le matériel est en exploitation.
Oui, ouais. Oui, il est en exploitation, ouais. Oui. J'en ai moins que certains collectionneurs, mais ils sont tous utilisés.
Parce qu'un collectionneur, en fait, a beaucoup peut-être de matériel, mais qu'il n'utilise pas forcément.
Pas forcément. Chez moi, parce que j'habite dans mon studio, ma maison c'est mon studio, et tout mon matériel est utilisé et exploitable.
Voilà. Et donc, partie prenante dans l'association qui organise l'événement d'aujourd'hui ?
C'est ça. J'ai François, le fondateur de l'association, qui est venu me chercher. Et ça m'a intéressé. Et j'ai rencontré plein de gens, plein de collectionneurs. Et voilà, ça parle chiffon et chaussettes toute la journée, comme on dit. Et
voilà. Que c'était pas trop le cas avant, enfin, où peu de gens dans ton environnement étaient...
Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça s'adressait surtout au matériel vintage. Et moi, je suis vraiment attaché à ça, en fait. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de différence entre les synthés vintage et ceux de maintenant. C'est intéressant. Je trouve beaucoup plus intéressant les vieux, parce que je trouve qu'ils sonnent mieux, tout simplement. Je trouve qu'ils sonnent vraiment beaucoup mieux, même.
Excusez-moi, ben, j'ai un copain qui vient et donc il est perdu.
Ah.
Et vous êtes
Je m'appelle François, je travaille pour Radio Campus.
D'accord, ok.
Mais d'après ce que j'ai compris, vous avez également été partie prenante dans la conception des appareils qui sont présentés ici.
Alors, en fait, oui, alors l'essence FM, Le modèle MK1, j'avais travaillé avec Stéphane, tous les trois, sur la conception de ce synthétiseur, qui est sorti en 2019, si je ne me trompe pas.
C'est assez récent, alors.
Ouais, c'est assez récent. Donc, il y a eu une édition, l'édition MK1. Là, c'est l'édition MK2. Moi, j'avais travaillé sur la partie MK1, sur la partie interface et les visuels aussi, parce qu'il y a une partie visuelle qui permet, pour les personnes qui ont besoin de retrouver des catégories d'une manière très rapide et visuelle. Et donc, ce synthétiseur a été mon premier projet collaboratif avec Stéphane et Massami. Donc, on est plusieurs personnes à avoir collaboré sur la création de son de la première édition version clavier. Et ensuite, il y a la nouvelle édition qui sort là, en ce moment, qui est en fait le Mask One MK2 aussi, qui ressemble à cette version-là, mais avec une façade un peu plus couleur pastel. Voilà.
Fabrication toulousaine, alors ?
Fabrication de toulousaine. Enfin, lui, c'est plus côté du Tarn. Lui, il est du Tarn, mais c'est vrai que ouais, on n'est pas loin, dans le même secteur. Voilà. Ah, j'ai un appel, excusez-moi.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est parti ?
Allez, attention.
Donc, il annonce le groupe de son que c'est.
Master Group.
La porteuse. Et ensuite, les programmations de son en audio numérique. Bon. Alors, après, le synthé est entièrement programmé. Il passe tous les sons un par un.
C'est tellement étrange.
Alors, le synthé, il n'est pas là. C'est un DX9, mais c'est la famille. C'est un petit de celui-ci. Il est là. De celui-là. Ça, c'est pas le même. Lui, il a des cartouches.
Donc,
il a
les sons
cartouches.
Sont stockés sur une cassette type...
Une cassette, voilà, comme les cassettes audio qu'on mettait dans un lecteur normal aussi, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Simplement, dessus, il y a bon, les annonces voix pour dire de quoi il s'agit comme son, par rapport à la liste qui est sur la jaquette de la... Tu sais pas quoi. Tu entends les signaux, tu sais pas quoi.
Je reconnais.
Tous les sons. Ouais, ah ouais, le cri, c'était la trompette 4, voilà, tu vois. Donc là, tu as les noms des sons. Et quand tu as un brrr, tu as des groupes de... Tu as un son qui passe à chaque fois.
Et combien de sons tu peux charger à la fois ?
Alors, sur le DX, en général, c'est 32. Le DX7, c'est 32 sons, sur le premier, évidemment.
Et le temps de charge doit être très long, alors.
Oui, oui, oh, bah, tu as le temps de finir ton café, bien sûr. C'est l'époque où on prenait son temps, mon monsieur.
On prenait son temps. Là, tu as chargé, là.
Alors là, j'ai déjà fait programmer, moi, les sons et charger. Ce qu'on va entendre, là, c'est... Ce que tu entends, c'est le rack FM de la famille du DX, qui est le TX80Z, qui est assez différent dans la mesure où... Il a moins de voix de polyphonie, 8 au lieu de 16, mais aussi il a plusieurs formes d'ondes différentes, puisque la synthèse FM partait de sons au départ de signaux sinusoïdaux uniquement combinés entre eux, se perturbant les uns les autres ou en parallèle.
Et là, tu peux le faire sonner alors ?
Alors là, je te fais sonner le TX80Z, donc voilà. Donc là, lui, je vais le.
Ah, c'est là que ça sort.
Donc je vais mettre le volume. Tu vois, il y a le signal de base et le deuxième petit qui vient le perturber.
Ouais.
C'est pas du filtre, c'est vraiment les harmoniques qui augmentent naturellement de l'intérieur du son. Et ensuite, on peut faire donc changer la forme d'onde, la fréquence. Du modulateur ou de la porteuse. Et grâce à ça, on peut obtenir des sons comme celui-ci, que j'ai appelé Sixen, donc qui ressemble à un truc de métal. Voilà.
Un petit dernier avant que tu partes déjeuner.
Oula, alors il faudrait que je repasse, oui. Alors après, on avait des sons, mais je pourrais passer. Il faudrait que je trouve le fameux pseudo DX7, qui était un son pourri, censé imiter le pseudo, Fender Rhodes. Voilà. Ça, c'était un Fender Rhodes, d'après les Japonais qui l'ont programmé. C'en est un, il y a plein de versions différentes. Voilà, ça, c'est le plus connu. hyper connu,
oui.
Maudit sur des générations alors depuis qu'il a été.
Des années 80.
Voilà, on en a abusé tellement dans cette époque-là qu'il ne faut plus le jouer. Il est interdit.
Bonjour monsieur, bonjour.
C'est par ici.
Oui. Alors, bonjour, moi je m'appelle Claire. Et du coup, je viens donner un petit coup de main pour l'accueil, les cafés, les boissons. Voilà.
C'est un poste important quand même.
Eh bien, oui, ça fait partie de l'accueil. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
C'est par ici l'entrée, si vous voulez. Oui, voilà, allez-y.
Vous, par rapport au monde, à l'univers du synthétiseur, où est-ce que vous vous placez ?
Alors, ben, moi, c'est mon mari qui est passionné de musique et de synthétiseur depuis des années. Et comme c'est un univers de passionnés, ils sont passionnants. Et bon, voilà, on apprend et on échange, voilà.
Est-ce que vous avez beaucoup de synthétiseurs à la maison ?
Alors, il y a une pièce qui est dédiée à ça, entièrement. Puisque mon mari, lui, il répare. Donc du coup, il y a des synthés opérationnels et puis il y a des synthés en chantier, voilà, plus ou moins. Donc nous, on est en appartement à Toulouse et il y a une pièce qui est réservée à ça. Et après, on a un autre lieu, une maison en Ariège, où là aussi, il y a le grenier. Le grenier qui est investi par la musique, voilà.
Voilà, une passion voilà. Un peu dévorante, non ?
Alors, elle peut l'être, et c'est vrai qu'on le fait avec quand même modération. Parce que je vois d'autres amis où c'est encore plus envahissant. il y a toujours des envies d'un modèle qu'ils n'ont pas, ou voilà.
Donc là, vous entendez celui-là ?
Oui.
Et là, vous entendez celui-là.
Ouais.
Et vous pouvez tester les deux, les comparer.
Tu te mets en solo.
J'aurais baissé le général et on va voir les casques partout.
Vas-y, là.
Là, tu l'as ? Ouais, j'ai des casques. Et il est dans les deux. Rien. Non, ça c'est le.
Non, voilà.
C'est
le
score. Tu as l'air moins occupé que tout à l'heure, tu as 5 minutes.
Ouais, j'ai un moment, ouais, pas de soucis.
Alors, est-ce que tu peux présenter ce que tu viens d'installer depuis ce matin ou depuis hier ?
Depuis ce matin, j'ai reconstitué mon studio quand j'ai commencé. Donc, j'ai mon home studio. Donc,
tu as commencé quand ?
J'ai commencé en 2002, moi, avec du matériel. Donc, il y avait déjà de l'âge, puisque j'avais pas d'argent. Donc quand j'ai commencé, j'avais acheté du matériel, j'avais récupéré le matériel d'un studio dans lequel je donnais un peu la main. Et donc j'ai commencé en 2002 avec du matériel qui date de entre 90 et 95.
Donc actuellement, c'est ta principale activité ? Tu gagnes ta vie avec ça ou c'est un loisir qui prend beaucoup de place ?
Non, c'est mon activité principale aujourd'hui. Donc je continue à faire de la musique à l'image, films et jeux vidéo principalement, et je fais également ce que je ne faisais pas trop à l'époque, c'est de la musique avec des artistes, et notamment maintenant des artistes rap et hip-hop, qui recherchent à nouveau maintenant du son de ces années-là.
Tu as dû diversifier ton activité pour augmenter tes revenus ou alors c'est juste on t'a sollicité et tu t'es dit bon d'accord, pourquoi pas ?
Non, c'est vraiment des histoires d'opportunités, oui. C'est des gens qui sont venus et puis c'est vraiment par la relation de telle ou telle personne et le feeling avec les humains, on va dire, qui a fait que je me suis diversifié. Et également l'envie de faire aussi des projets un peu différents les uns des autres afin de pouvoir un petit peu artistiquement me renouveler pour éviter de rester dans quelque chose qui va être toujours monotone, etc.
Donc là, on est sur un studio deuxième moitié des années 90. On peut le façonner un peu pour avoir ouais. Des couleurs.
Voilà, j'ai enregistré ça tout à l'heure pour m'amuser un peu.
Donc ça, c'est la première version d'Atari.
Non, là, c'est un Mac. C'est vraiment le Mac Quadra avec Performer. Voilà. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui encore, je continue à utiliser la dernière version de Digital Performer sur mon setup actuel. Hein.
Allez, un autre peut-être panorama sonore.
Donc là, on a un peu d'FM. pense que ça rappellera le grand bleu à certains. Et ensuite, bien sûr, notre MT32 que pas mal de gens ont eu. Voilà, donc on peut mettre le canal 2 comme ça jouer. Et on peut mettre aussi éventuellement ceci, le SD1, que moi personnellement j'aime beaucoup.
Pour terminer, est-ce que tu veux te présenter ?
Je m'appelle Massami Komuro, je suis compositeur de musique et sound designer. Voilà, et je suis jeune malgré mon matériel de vieux.
Tu as quel âge si c'est pas
indiqué ? J'ai 36 cette année. J'ai commencé à l'âge de 11 ans.
Merci beaucoup, Massami.
Allez, on y va alors.
Allez, ouais. Après, si tu veux voir le truc, les démons, on va voir. Hein, mais,
voilà, je crois que j'ai suffisamment de
ouais, faire. Je pense que. Ouais.
Ça
peut
faire.
Bon, ben, merci d'être venu en tout cas. Hein, c'est.
C'était le Synthéday, le jour du synthétiseur.
On va voir plusieurs séquences.
Là, on a filtré.
Voilà, il y a un filtre. Voilà.
Exposition et salon dédié aux synthétiseurs analogiques des années 60 à 80.
Allez, pourquoi pas, ouais. C'est des
années. Un documentaire radiophonique de François Berchenko avec la participation des membres et adhérents de l'association toulousaine Keys and Knob Stuff. Jérôme Vergès, Alain Baudier, Éric Volpati, Claire Zaki, François Méric, Claire à la buvette et au café, et Massami Komuro. Enregistrement et entretien menés in situ, en immersion et en déambulation, entre les différents espaces et exposants installés au studio Atlanta Triax, au numéro 9 de l'impasse Léonce Couture, quartier La Roseraie à Toulouse. Dans la matinée du samedi 11 avril 2026, à l'occasion de la première édition du Synthéday proposée par l'association Keys and Knob Stuff. Produit et réalisé par François Berchenko pour Campus FM à Toulouse et pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des radios Campus.